Dans un premier temps, on va parler finance, on va parler placement et d'argent avec un invité qui est vice-président placement de portefeuille global chez PSP Investissement. Et il est aussi président de CFA Montréal. Qu'est-ce que c'est CFA Montréal? Si on va au-delà de l'abréviation, c'est Chartered Financial Analyst. Et c'est donc une association qui regroupe des analystes financiers agréés ici dans la région de Montréal. Et notre invité s'appelle Carl Robert. Monsieur Robert, bonsoir.
Bonsoir, Monsieur Langlois, comment allez-vous?
Ça va bien, je vous remercie. Vous-même, comment ça se passe pour vous?
Ben oui, ça va très bien. On est très occupés. On s'en serait demandé qu'est-ce que c'est quand on a commencé de confiner chacun dans nos maisons, comment ça se passerait. Puis finalement, on se rend compte que c'est presque même plus occupé. La charge de travail est énorme. Mais surtout dans notre domaine, on se rend compte aussi, avec le sondage qu'on a fait en plus au niveau de CFA Montréal, la plupart d'entre nous sommes toujours en employés, en fait, ce qui est la bonne nouvelle du sondage. Mais on est très occupés. Hein. Les gens sont préoccupés par leur portefeuille. C'est une situation de crise, donc il faut savoir quoi faire, ne pas paniquer et autres. Donc, et puis les nouvelles technologies à la maison, ça fonctionne étonnamment bien. Donc, j'ai l'impression qu'on va revenir au boulot dans quelques semaines, dans quelques mois, assez changé, en fait.
Ce qui est intéressant du sondage que CFA Montréal a réalisé, c'est que vous avez un bon échantillon, là, 2900 membres. Quand on sait qu'en campagne électorale, on a des sondages à 500 répondants qui nous donnent quand même une bonne indication d'où s'en va le vote. Donc, 2900 membres qui ont participé au sondage auquel vous les avez soumis. Je vais pas citer toutes les réponses, mais je vais surtout vous demander, laquelle des données que vous avez obtenues dans ce sondage-là qui vous fait réagir le plus? Commençons par le positif. Qu'est-ce qui est le plus positif dans les résultats de ce sondage-là, selon vous?
Ben, je vous dirais que ce qui est positif, je m'en attendais un peu aussi quand même, c'est que la plupart de nos membres voient une récession qui dépassera pas une année, donc entre 6 mois et un an. Environ 60% de nos répondants au Canada pensent qu'au Canada, la récession ne durera pas plus qu'un an. Puis à peu près la même chose pour ce qui est des États-Unis. Donc un peu plus, les gens sont un peu plus positifs pour le Canada, mais pas une grande différence. Puis la deuxième chose qui est intéressante aussi, malgré le fait qu'il y a quand même une bonne récession là, puis ça va vraiment pas bien au niveau de l'emploi et autres. Au niveau de la reprise des marchés boursiers, nos membres s'attendent à un retour vers les valeurs qu'ils étaient avant la crise. Entre un an et 2 ans d'ici. Donc, une certaine reprise des marchés financiers qui devrait être de retour, selon eux. Donc, ça, c'est l'aspect quand même qui est positif,
oui.
Je vous dirais. Et puis ça vient, en fait, en gros, une des grandes raisons de tout ça. Ben, il y a deux raisons. Hein. C'est que la récession est un petit peu artificielle. C'est-à-dire que c'est un cataclysme économique qui est un peu comme un désastre naturel qui se passe dans les marchés financiers en ce moment partout sur la planète. Une maladie, hein. Donc, les gouvernements ferment leurs activités économiques. Hein. C'était jamais vu quelque chose d'aussi. Peut-être la dernière fois qu'on a vu quelque chose de semblable, peut-être pendant la grippe espagnole en 1918 à 1920. Ça fait 100 ans de ça déjà. C'était beaucoup plus grave dans ce temps-là. Donc, maintenant, on a une maladie qui est quand même beaucoup moins grave que la grippe espagnole. Mais c'est quand même une récession qui est un petit peu artificielle. C'est-à-dire, c'est vraiment les gouvernements qui ferment leur économie pour pouvoir préserver leur système de santé pour pouvoir mieux repartir par la suite. Donc, il va y avoir on va repartir l'économie de façon graduelle, comme on l'a entendu aujourd'hui avec notre premier ministre. Ça se fait aux États-Unis aussi. Les plans sont très détaillés pour chacun des États dans les prochaines semaines. Donc, il va y avoir une certaine reprise qui est calculée. Ça sera pas facile. Il n'y a pas encore de vaccin avant plusieurs mois. Par contre, c'est le stimulus des gouvernements américains, canadiens, un peu partout dans le monde, en collaboration aussi avec les banques centrales, c'est jamais vu. Même avec 2008, on se serait cru qu'ils en avaient trop donné. Hein, les banques centrales, ils avaient baissé leurs taux presque à zéro. Ils avaient injecté plein d'argent. Les gouvernements, en particulier aux États-Unis, avaient sauvé le domaine de l'automobile. Donc, il y avait énormément d'argent qui avait été donné. Mais là, c'est encore pire. C'est que les gouvernements, c'est une bonne chose, en fait, les gouvernements...
L'aide est encore plus significative, plus importante en termes de quantité de milliards qui ont été saupoudrés dans les économies canadiennes et américaines et ailleurs dans le monde, en effet.
C'est assez bien synchronisé, en plus. Donc, c'est vraiment la bonne nouvelle. Donc, il pourrait y avoir un rebond assez violent, en fait. On en a vu un, hein. Il y a une espèce de reprise là, depuis le creux du mois de mars dans les marchés boursiers, avec un rebond record. On a repris presque la moitié de la perte. Bon, il faut faire attention, là. On ne gagnera pas tout ça tout de suite. Et puis, il va y avoir beaucoup de fluctuations dans les prochains mois. Mais il y a quand même les gouvernements et les banques centrales, un peu partout normalement en Europe aussi, au Japon, c'est assez unifié. Hein. Il y a vraiment, cette fois-ci, les gouvernements et les banques centrales.
C'est un sentiment unanime par rapport à la reprise. J'entends ça. Il y a un de mes amis qui me dit ça. Ça fait un bout de temps, il y a plusieurs semaines. Et quand on est bien avisé, il y a moyen de faire des bons placements. Puis il y a le timing de tout ça, j'imagine aussi. Là, qu'est-ce que vous surveillez le plus? Mettons, moi, je suis votre client. C'est quoi l'élément le plus important à considérer pour tout investissement futur ou pour toute gestion d'un portefeuille actif?
Mais je vous dirais, je pense que ça s'apprête bien à une des questions qu'on a posées à nos membres. Quelle pratique allez-vous revoir? Et puis, 55% de nos membres nous disent la gestion du risque. Donc, votre portefeuille en ce moment, là, pour ceux qui nous écoutent, est-ce qu'il est bien protégé, votre portefeuille? La règle numéro un, c'est la protection du capital. Est-ce que vous allez garder votre capital? Est-ce que vous n'allez pas en perdre trop? Donc, ça, c'est la gestion du risque numéro un. La deuxième chose la plus importante, c'est vraiment la répartition de l'actif. C'est-à-dire, quel est le pourcentage d'actions que vous avez dans votre portefeuille, le pourcentage d'obligations? Est-ce que vous êtes bien diversifié dans différents pays? Quelle est votre exposition à certaines devises? Par exemple, quand il y a une grande crise, là, comme on a en ce moment, la même chose en 2008, par exemple, le dollar américain s'apprécie énormément. Donc, d'avoir une certaine exposition au dollar américain, que ce soit à travers les actions, les obligations ou d'autres actifs aux États-Unis, par exemple, ben, ça permet ça permet d'être plus défensif, si on veut. C'est juste un exemple. Mais tout ça pour dire que la répartition d'actifs. Donc, numéro un, c'est la gestion du risque à 55%. Numéro deux, c'est la répartition d'actifs à 46%. Ensuite, ça, c'est rééquilibrage. Hein, c'est curieux. Donc, nos membres nous disent le rééquilibrage, c'est la troisième chose la plus importante. C'est quoi le rééquilibrage? C'est que quand il y a un débalancement de votre portefeuille dans temps de crise, par exemple, mais c'est important de rééquilibrer votre portefeuille aux cibles que vous étiez données à long terme, qui étaient basées sur votre tolérance au risque et autres. Donc, il faut faire ça de façon prudente, mais il y a un certain rééquilibrage à faire de votre portefeuille. Puis en quatrième, c'est la gestion de portefeuille. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est la sélection de titres. Est-ce que, comme par exemple, donc, c'est un peu ce que les gens souvent le premier réflexe des gens, c'est « Ah, quel titre je devrais acheter ou quel titre je devrais vendre? » En fait, ça, c'est la dernière considération. C'est vraiment le risque en premier, répartition d'actifs deuxième, rééquilibrage troisième, et ensuite, à la fin, c'est le choix de titre. Vous pouvez faire des bons choix de titre, des mauvais choix de titre, mais si vous avez, par exemple, trop d'une catégorie d'actifs qui va perdre beaucoup d'argent, vous allez perdre de toute façon.
Il y a quelques données que j'aimerais partager avec l'auditoire issues de ce sondage-là, en vous rappelant que nous sommes en conversation avec M. Carl Robert, vice-président de placement de portefeuille global chez PSP Investissement, mais surtout président, dans l'entrevue qui nous occupe ce soir, président de CFA Montréal, qui est une association qui regroupe des analystes financiers. Parmi les résultats de sondage, plus de 78% des répondants estiment que le marché boursier américain ne récupérera pas sa perte actuelle avant 12 à 24 mois. Et j'enchaîne en disant une autre donnée du sondage, c'est que 65% des gens, des analystes, envisagent que l'Asie sortira plus rapidement de la récession mondiale et sera suivie par l'Amérique du Nord. Ma question, c'est, avec la prise de conscience de tous les pays qui se disent « on a tout envoyé nos trucs, par exemple, dans le domaine de la santé, se faire fabriquer en Chine, on va récupérer une partie de la production de certains de ces produits-là », de quelle façon ça va changer le portrait des investissements entre l'Asie et, par exemple, le continent nord-américain?
OK, ça, c'est une très bonne question. En fait, vous soulevez deux points ici. Le premier point, c'est que l'Asie va s'en sortir un peu mieux que les autres régions en premier. Puis c'est quand même pas mal plus. Hein, nos membres, ils vont avec 65% pour l'Asie. Je pense que c'est simplement le fait, le premier point, c'est simplement le fait que l'Asie a été frappée en premier. Qui a eu quand même, qu'eux, maintenant, leur courbe, ils l'ont aplati avant. Ça a commencé, par exemple, en décembre en Chine. Donc, tu sais, ça a été très difficile pour eux. Ils ont fermé là, des régions avec plusieurs dizaines de millions de personnes. Ils ont été très sévères dans leurs règles. Ça commence à ouvrir maintenant là-bas. Donc, ils sont un peu en avance, c'est-à-dire parce qu'ils ont été frappés en avant. Donc, c'est sûr que là, il y a une reprise qui se passe avant, tout simplement parce qu'ils l'ont eu avant la maladie. Donc ça, c'est le premier point. Puis deuxième point, les États-Unis ou l'Amérique en deuxième. Écoutez, je pense que ça va être un peu plus facile pour... Il y a, par exemple, l'Europe qui est frappée, mais de façon assez spectaculaire dans certains pays comme l'Espagne, l'Italie.
Oui.
Ça va beaucoup mieux en Allemagne. Puis dans certains pays, la France, ça va pas très bien non plus. Puis il faut pas oublier que l'Europe a beaucoup de dettes. Hein. Puis c'est pas. Puis l'Europe, c'est plusieurs pays. Donc c'est difficile d'avoir une voix unifiée. On l'a vu dans la crise. Chacun des pays a fermé leurs frontières et autres. Donc c'est un peu plus difficile pour l'Europe. Donc c'est un peu normal que nos membres, je crois, voient l'Amérique en général s'en sortir un peu plus rapidement que l'Europe. Bien que aux États-Unis, là, c'est assez difficile au niveau de l'épidémie en ce moment. Mais ils ont vraiment réagi, les Américains, de façon assez spectaculaire avec la Fed et leur gouvernement aussi. Mais pour ce qui est pour votre deuxième question, en fait, donc ça c'est pour répondre. Donc oui. C'est un peu normal que l'Asie s'en sorte mieux.
Oui.
Je dirais,
rapatrier aussi, de la production.
Je dirais avant, par contre, la Corée du Sud a très bien géré la crise. Ils utilisent énormément leur technologie. Ils testent énormément de gens. Puis ils ont vraiment une courbe là très plate par rapport aux autres pays. Ça fait que c'est vraiment un des pays qui a mieux géré en fait la crise jusqu'à maintenant. On verra si ça va continuer. Donc il y a certains exemples comme ça en Asie, à Taïwan aussi, qui semblent bien gérer la crise sanitaire en tant que telle. En plus.
Oui.
Donc pour ce que vous dites là en termes de rapatriement de certaines industries dues à la on avait tendance à avoir beaucoup de mondialisation, puis là, on s'en va vers un cycle où il va y avoir moins de mondialisation. On va essayer de plus en plus de produire des choses un peu plus de façon locale. Vous avez raison, c'était déjà quelque chose qui était enclenché, en fait, hein, même avant la crise. Là, ça va s'amplifier, c'est sûr. En plus, avec l'automatisation, il y a de moins en moins de besoin de faire ça outre-mer quand on peut avoir des usines qui sont automatisées chez soi. Tout ça, oui, ce que vous dites, c'est un peu négatif pour l'Asie, hein, la Chine qui produisait énormément, qui va quand même continuer à produire beaucoup de nos produits. Mais c'est sûr qu'en, si on compare avec ce qu'il faisait, il va y avoir une tendance il va y avoir un certain point négatif à ce niveau-là. Donc, il regagnera pas autant qu'il pourrait avoir regagné.
Pour un plus grand équilibre mondial, hein? Au bout de
ça. Ça reste à voir, hein. Non. Ça reste à voir parce que on voit en ce moment, il y a quand même des. Il y a beaucoup d'aspects, hein. Il y a l'aspect technologique qui était déjà présent, hein, quand même beaucoup de différences de répartition de richesses. On le voit par exemple au Québec, hein, puis au Canada. Je pense qu'on est un peu chanceux à ce niveau-là. Il semble y avoir une meilleure distribution de richesses avec un système de santé qui est gratuit et de soins pratiques. On voit que c'est quand même un avantage. Sur certains autres pays, comme par exemple aux États-Unis, où les gens vont y passer à deux fois avant d'aller à l'hôpital, puis ressortir avec une facture qui va leur donner quasiment une faillite, parce que ça coûte énormément cher. Donc, il y a vraiment des inégalités au niveau des soins de santé, un. Puis, deuxièmement, les pays où ils ont meilleure éducation et meilleur système de santé vont s'en sortir un peu mieux, hein, comme à Montréal ou au Québec, par exemple. Le fait qu'on ait bonne concentration d'universités, un bon système d'éducation qui est vraiment pas cher, santé aussi, ça nous donne un avantage.
Peut-être un dernier élément sur lequel je vous amènerais, c'est les pertes se chiffrent à combien en pourcentage moyenne, c'est-à-dire en moyenne, les pourcentages de pertes s'établissent à combien des portefeuilles d'individus, disons en Amérique du Nord ou au Québec, au Canada? Je sais pas si vous avez des données disponibles par rapport à ça.
Ben j'ai pas les données devant moi, mais tu sais, grosso modo, si on pense par exemple à la bourse là au creux a perdu environ c'est quelque chose comme 35% au milieu du mois de mars. Aura gagné peut-être la moitié, donc disons qu'on a perdu 15% dans les marchés boursiers, mais si votre portefeuille grosso modo 50% de ça, donc tu veux envoyer puis vous avez un peu d'obligation. Donc, tu sais, vous avez peut-être perdu, toute façon pratique, peut-être 10%, je dirais, dans un portefeuille plus ou moins équilibré.
Pas plus que ça?
Bon, 10-15%, tu sais, ça dépend de votre tolérance, ça dépend combien vous avez de marchés boursiers dans votre portefeuille.
Oui.
Mais les obligations ont quand même très bien performé là, à travers tout ça. Les taux d'intérêt ont tellement baissé que si vous aviez un moindrement d'obligations dans votre portefeuille, ça a quand même fait un bon coussin.
Monsieur Robert, donc, peut-être une question. Ben, tu sais, des fois, il faut jouer l'avocat du diable aussi. Puis j'aime ça le faire, même avec mes amis qui pratiquent le même métier que vous. C'est que, tu sais, dans un environnement où tout le monde a des intérêts aussi, est-ce que l'optimisme de la plupart des analystes financiers s'explique aussi par leur intérêt à ce que ça soit positif?
Non, c'est un très bon point, hein, ce que vous amenez. Les gens ont tendance, on le voyait tout de suite après quand la crise a commencé. en février, début mars. Les gens disent « Ah, c'est juste un petit blip, ça va passer, il n'y a rien là. » J'ai vu ça énormément autour de moi, puis c'était vraiment pas la bonne idée. Hein. Donc, tout ça étant dit, même si on a regagné la moitié de ce qu'on avait perdu, faut faire très attention dans les prochains mois. Il va y avoir des rechutes, il va y avoir des erreurs, il va y avoir de certains secteurs qui vont faire très mal, d'autres qui vont mieux faire. Il va y avoir énormément de différenciation dans vos portefeuilles, de pas paniquer, mais aussi de revoir votre stratégie. Je pense que c'est vraiment important. À tête reposée, là, c'est le temps. Là, les marchés ont un peu rebondi. Ça fait le temps de regarder vos choses, de voir est-ce que vous êtes à l'aise avec tout ce qui s'est passé. Mais vous avez raison. Hein, les gens ont tendance à être un petit peu optimiste.
Ça va bien aller. Ça va bien aller. Ouais. Mais là, je veux pas être négatif en le disant, mais c'est parce qu'à un moment donné, c'est ça, là. Tu sais,
quand on voit, par exemple, que nos membres, la priorité numéro un, c'est la gestion du risque. Défensive, hein?
Ben oui.
La personne active, c'est la défensive aussi.
Oui.
Donc, la meilleure défensive possible. Après ça, on va faire un peu d'attaque.
Faut serrer le système défensif. Faut donner moins de buts. Moins de buts qu'on en compte. Merci beaucoup, M. Robert, d'avoir été là. C'était bien agréable. Bon. Merci beaucoup.
Okay, au plaisir, c'est le plaisir pour moi.
Au revoir. Carl Robert, donc, qui nous parlait en tant que président de CFA Montréal, une association qui regroupe des analystes financiers agréés.